François.
Merci de votre présence nombreuse. On doit parler sans micro, l'ouverture de la salle.
C'est déjà soufflé.
Et donc, bon, on va parler de ça. Merci de votre présence. Donc, on est ravis de cette soirée. Jérémy Merman va nous rejoindre, il est dans le taxi. Auparavant, donc, nous sommes en compagnie de Michel Serac, de l'association Aquilonet, qui va présenter les activités de l'association, avec également Samuel Thibault, qui enseigne à Bordeaux 1, au Labri. Oui, le professeur Jean-Pierre Duprat, de droit public, et qui parlera, lui, plutôt sur l'axe Internet et liberté vue, côté droit public. Moi, j'interviendrai, si y a besoin, sur les questions de propriété intellectuelle. Et on va entamer tout de suite en présentant l'association, ses activités, le réseau.
Bien, donc, l'association Aquilonet, nouvellement créée donc en 2010, cofondateur de la fédération FDN, c'est-à-dire le réseau de French Data Network, le réseau France, Maillé, donc dans les différentes villes, donc pour nous l'Aquitaine, avec un objectif de créer des lignes ADSL, c'est-à-dire relier des internautes au réseau, avec la prétention de les relier de façon libre et juste, et on va essayer de s'expliquer sur ces deux termes. Librement, ça veut dire sans trace, sans trac, sans filtrage de l'Internet. On peut le voir tel que c'est proposé par des fournisseurs FT à l'heure actuelle, et donc sans la revente peut-être des éventuels listings, sans regarder réellement donc laisser la liberté de connexion. Voilà, donc l'objectif premier est bien de mettre en place de la DSL. Ensuite, on fournit évidemment des comptes SSH, des comptes email, avec tout un tas de technicité derrière pour ceux qui sont intéressés, l'hébergement évidemment, et d'autres services. Voilà, donc, pourquoi on est directement relié donc au juste Internet, c'est ça qui fera le lien avec la liberté par rapport à le fournisseur d'accès par rapport à d'autres Internet. Donc, c'est pour ça qu'on se. Par la venue de Jérémy Zimmermann, que l'on fréquente évidemment dans le milieu du réseau et qui est évidemment un des grands acteurs. Il y a des gens de la fédération qui sont là aussi de Toulouse, qui sont venus nous rejoindre, qui vont peut-être, si vous voulez, prendre part au débat. Nous, on a évidemment une approche assez technique, avec Samuel qui est encore plus technique, ou Labri, donc bordeauxain. Je pense qu'on se pensera beaucoup plus sur le côté droit, les droits publics et droits privés, de votre côté. Je pense que c'est des sujets qui intéressent, évidemment, Jérémy Zimmermann. Donc on ne vous embêtera pas avec des techniques, on avance pour moi. Par contre, l'association donc Aquilonet a pour objectif évidemment d'être une association donc de porter une philosophie. Donc, je vous invite évidemment à adhérer à l'association sans pour autant prendre une ligne immédiatement. Et ensuite, vous pouvez évidemment réfléchir à est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que ça y a un intérêt et quel est l'intérêt de prendre une ligne ADSL, non pas chez un fournisseur classique, mais chez un fournisseur associatif libre. Voilà pour ma part. Si vous voulez commencer avant que Jérémy Zimmermann doit arriver, il est dans le taxi.
Le taxi marche moins vite que la DSL. On peut peut-être démarrer cette fin d'après-midi avec professeur Dupin sur le thème d'Internet et liberté. Effectivement, l'actualité a été marquée par une décision qui est tout à fait emblématique du Conseil constitutionnel. Mais il n'y a pas que ça, c'est un vieux problème. Je me souviens d'une époque où on évoquait le droit à l'antenne, le droit à la réception, etc. On peut peut-être l'évoquer en début de soirée, avant de reprendre le débat.
Donc, merci beaucoup. Je dois dire que c'est la deuxième fois, parce qu'en 8 jours, je suis amené à intervenir sur ces questions-là, qui, il faut bien le reconnaître, jusqu'à une époque assez récente, n'avait pas mobilisé autre mesure, mais si ce n'est au travers de l'analyse des décisions du Conseil constitutionnel, puisque j'ai été invité l'année dernière pour me rendre en détail pour évoquer cette question de la protection des données, la protection des données personnelles, essentiellement, donc l'équilibre à établir entre la transparence et la protection des données personnelles. C'était un autre problème. Et la mise en rapport entre deux régulateurs qui interviennent, la CNIL et la CADA. Donc la CNIL, vous connaissez évidemment, c'est l'Institut national pour la liberté, et la CADA, qui est l'Office d'accès aux documents administratifs. Donc là, ici, on m'a demandé de traiter au travers des, notamment des jurisprudences du Conseil constitutionnel qui étaient relatives à la loi Hadopi, qui a donné lieu à deux décisions en 2009, de ce problème donc de l'Internet et liberté et droit, donc protection des droits et liberté. Alors, je vais forcément, en un temps assez restreint, de l'unité, mais il faut bien savoir qu'il y a des textes en débat à l'heure actuelle qui soulèvent des questions relatives à ces problèmes, et en particulier avec tout ce qui concerne la vidéosurveillance, notamment avec la loi LOPSI 2 qui va déboucher, qui peut déboucher d'ailleurs sur l'établissement de fichiers informatisés traitant des images qui sont reçues par le biais de la vidéosurveillance. Donc ça, je ne le traite pas, je vais directement aux questions qui étaient relatives plutôt au problème de Hadopi, donc un régulateur parmi d'autres. Je rappelle qu'il existe à peu près 40, légèrement plus de 40 régulateurs à l'heure actuelle, ce que l'on appelle dans notre jargon des autorités administratives indépendantes. Et ces autorités administratives indépendantes, pour le savoir, sont sur la sellette à l'heure actuelle, au travers de deux rapports qui ont été rendus, l'un par le Sénat il y a quelque temps, c'est le rapport Guélard, et un beaucoup plus récemment à l'Assemblée nationale, qui est le rapport d'Ozière-Vanès. Donc il y a un certain nombre de réflexions sur ces régulateurs, et notamment la proposition de regrouper ces régulateurs, ce qui nous concerne directement, puisque les principales autorités qui interviennent dans notre secteur, qu'il s'agisse de la CNIL ou qu'il s'agisse de Hadopi, feraient l'objet également d'un regroupement. Donc ce sont des propositions pour l'instant, il n'y a pas encore de texte de prêt dans mon projet, moi il n'y en a pas, donc mais il faut savoir que c'est quand même dans l'air. Ce qui fait que je crois qu'il y a lieu pour nous de nous interroger sur deux problèmes essentiels. Le problème, c'est d'abord de savoir quelles sont les libertés principales, qui se trouvent en cause dans le fonctionnement d'Internet, et d'autre part, quelles sont, si vous voulez, les transformations qui peuvent résulter justement de la réorganisation du système de régulation avec donc ces perspectives de réforme touchant les régulateurs. Alors d'abord, les libertés concernées par le fonctionnement d'Internet. Quelles sont ces libertés? Vous le savez comme moi, aucune liberté n'est absolue, elle est relative, ne serait-ce que parce qu'il y a une pluralité de libertés ou de droits, et là je mets sur le même plan droits et libertés, un peu à la manière de ce que firent les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et donc il faut rendre compatible entre elles ces droits, ces libertés ou ces droits. Donc ça va être le travail du législateur. Alors en gros, vous en trouverez certainement d'autres, mais je crois qu'il y a trois droits et libertés que l'on peut mettre en exergue et que l'on va devoir donc rendre compatibles entre elles, et nous verrons qu'il y a là un problème de dosage, d'équilibre à trouver pour permettre cette coexistence de droits et libertés ayant une portée différente. Donc, il faut savoir que l'accès à Internet repose sur une liberté qui a été formulée à une époque très lointaine, qui s'appelle plus de 2 siècles, et il est utile de vous dire que les contemporains, évidemment, n'imaginaient pas du tout que cela puisse s'appliquer à l'objet qui revient aujourd'hui. Mais c'est bien cette liberté de communication des opinions et des pensées qui figure à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui se trouve en cause et qui fonde, si vous voulez, cet échange sur Internet et donc l'accès à Internet. Et je voudrais souligner d'emblée que cette liberté est considérée comme étant d'une importance particulière et donc se trouve valorisée, je dirais, dans le raisonnement que tient le Conseil constitutionnel. En effet, vous savez probablement que en 2009, quand il y a eu la réforme qui a concerné Hadopi, il y a eu 2 décisions qui sont intervenues parce que, précisément, lors de la première décision, celle du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel avait censuré une disposition la loi parce que conférant, si vous voulez, un pouvoir de sanction de caractère juridictionnel à cette autorité et par conséquent, il avait en quelque sorte une disposition qui aurait dû être précisée en tous les cas dans le texte de la loi qui n'était pas et donc également le législateur était en retrait par rapport à sa compétence, donc il y a 2 motifs ici à déclaration d'inconstitutionnalité. C'est la raison pour laquelle il a pu modifier, donc adopter un 2e texte législatif, lequel était également soumis à la censure du Conseil constitutionnel, il a été d'ailleurs partiellement, le 2e étant plutôt axé sur le problème des sanctions, tandis que le 1er était véritablement, la première décision était plutôt orientée vers la reconnaissance des droits qui fondent donc cet accès à Internet. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que précisément, dans la première décision que j'ai mentionnée, le Conseil constitutionnel nous rappelle que cet article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen concernant la communication des pensées et des opinions doit être étendu au secteur l'Internet et ce qui se traduisait par lui notamment, pour lui, il est remarqué l'importance prise par ces services donc, de communication au public en ligne pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions. Ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. Et ce qui est très important, on le disait tout à l'heure, c'est l'insistance qui est mise sur précisément le lien qu'il y a entre Internet et la vie démocratique. Et il est rappelé en effet ceci, que cette liberté est d'autant plus précieuse, dit le Conseil, que son exercice est une condition de la démocratie et une des garanties du respect des autres libertés. Donc il y a 2 aspects. C'est une condition de fonctionnement, en quelque sorte, de la démocratie et en même temps aussi, c'est une garantie du respect d'autres libertés. Et donc il y a à ce titre, évidemment, une place particulière qui doit être réservée à cette liberté de communication des idées et des opinions. Mais naturellement, ce n'est pas une seule liberté qui se rend compte, et il y a une autre liberté qui va être prise en compte et qui intervient notamment dans les décisions Hadopi, et c'est la raison pour laquelle il y a eu ici des interventions qui ont été nécessaires pour aménager un certain nombre de procédures concernant la protection de ce second droit. Ce droit est lié tout simplement à la propriété qui intervient à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dont une déclinaison particulière, c'est précisément la protection de la propriété intellectuelle. Et donc, il y a un premier problème qui va se poser, on va y revenir, c'est la nécessité de rendre compatible d'un côté cette liberté de communication des pensées et des opinions, et puis de l'autre, la protection des droits de la propriété intellectuelle lorsqu'il y a une expression organisée sur le terrain artistique, littéraire, tout ce que l'on peut imaginer, qui donne lieu à une protection particulière de cette création au travers donc de cette propriété intellectuelle. Et ce qui est en cause ici, ce qui a été d'ailleurs rappelé dans la décision, la première toujours à laquelle je me réfère, c'est évidemment la nécessité de lutter contre les contrefaçons. Il est rappelé que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développe sur Internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle. Troisième aspect que je voudrais mettre en lumière parmi les droits principaux ou les libertés principales qui me paraissent absolument importants, c'est évidemment la protection de la vie privée. Un autre droit, notre liberté, qui a une valeur constitutionnelle et protégée également par le Conseil constitutionnel d'une manière particulière. Et ceci, notamment, fonde, si vous voulez, le droit d'accès aux données personnelles qui peuvent figurer dans les fichiers, et en particulier les fichiers informatisés, c'est ce que visait notamment la loi du 6 janvier 1978, comme vous le savez, et qui permet l'intervention de la CNIL, laquelle a des pouvoirs très étendus, aussi bien concernant l'amont que, je dirais, l'aval, et notamment la possibilité ici de l'application de sanctions pécuniaires. Donc ce sont, on le voit, des libertés qui sont une place extrêmement importante et qui donnent lieu donc à protection. Et je rappelle d'ailleurs que dans la procédure qui va être aménagée pour la sanction concernant la contrefaçon qui peut être mise en œuvre et qui donne lieu donc à l'intervention de l'ADOPI, cette haute autorité, eh bien, il va falloir tenir compte du risque que l'identification des personnes qui sont en contravention avec les règles applicables peuvent donner lieu comme identification et donc là aussi comme donnant lieu à établissement de données qui, de manière indirecte, sont personnelles. Et donc, ils doivent donner lieu aussi à protection particulière et qui explique que la sanction ici doit être prononcée par une autorité juridictionnelle. C'est l'objet d'une longue discussion qui intervient dans le cadre de la seconde décision d'octobre 1999. Alors, quand il y a une situation comme celle-ci, évidemment, il faut rendre compatibles les libertés entre elles. Traditionnellement, si vous voulez, c'est le travail du juge que d'arriver à, par son interprétation à permettre qu'il y ait ainsi non pas le constat de l'irréductibilité de l'opposition entre les droits et libertés, mais au contraire d'essayer de trouver des complémentarités qui permettent de faire jouer ces libertés les unes et les autres et, je dirais, d'assurer la protection qu'elles donnent lieu. Alors, c'est un peu ici le rôle qui va être conféré par le Conseil constitutionnel au législateur, et ceci d'ailleurs sur la base d'autres articles de la Constitution, en particulier l'article 34, concernant les garanties que le législateur va devoir donner pour la mise en œuvre effective des droits et libertés. Alors, il y a, je dirais, deux séries importantes de risques de conflit, et je vais accélérer un petit peu. C'est entre la liberté de communication d'un côté et la protection du droit de propriété. Et il est évident ici qu'il va falloir donc limiter la liberté concernant la communication des opinions et des pensées, mais de manière proportionnée. C'est-à-dire que la limite qui doit intervenir sera vraiment la limite nécessaire et proportionnée pour permettre que le droit de propriété ne puisse pas être bafoué, en particulier le droit, donc la protection de la propriété intellectuelle. Donc les limites ne sont pas des limites, si vous voulez, absolue non plus, parce que sinon la liberté n'existerait plus autre chose que celle de communication, elle doit être vraiment étudiée, mesurée, pour respecter cette liberté, enfin, ce droit de propriété intellectuelle. Deuxième aspect également aussi à rappeler, c'est la compatibilité à établir entre la liberté de communication et le respect de la vie privée. Il ne faut pas que, au travers de l'accès à Internet, il y ait le risque de mettre en cause des informations qui sont des informations personnelles et qui pourraient mettre en cause cette vie privée de la personne. Et je rappelle que toutes les procédures qui sont mises en œuvre pour assurer cette protection sont des procédures qui doivent être adaptées à un processus qui aboutit finalement à la protection juridictionnelle, notamment la protection pour les décisions individuelles, donc soit par le juge judiciaire, soit s'agissant de textes de caractère généraux, par le juge administratif. Voilà donc, si vous voulez, ce que je voulais rappeler à propos donc de cette énonciation de liberté principale et de leur mise en compatibilité, en quelque sorte, par le législateur. Donc, le Conseil constitutionnel rappelle bien que ce n'est pas le pouvoir réglementaire qui doit assurer cette adaptation, c'est au législateur qu'il revient d'intervenir pour adopter les normes nécessaires pour cela. Alors on arrive à un deuxième aspect très important de ce problème, c'est évidemment le rôle que tiennent les autorités administratives indépendantes, ce qu'on appelle les régulateurs, et en particulier ADOPI. Et ADOPI ici va recevoir notamment, mais les régulateurs de leur ensemble, ce n'est pas nécessaire qu'elle soit, je dirais, cumulée, ça peut être alternatif, mais dans le cas de l'OPI, en fait, c'est en partie cumulé. Il y a donc un pouvoir, c'est un pouvoir de sanction, et il y a un deuxième pouvoir, qui est un pouvoir, d'élaboration de normes, donc ce que l'on peut appeler un pouvoir de caractère réglementaire, mais là aussi, il va être un pouvoir de caractère réglementaire, comme les normes, comme les sanctions d'ailleurs, qui doivent être strictement limitées, adaptées à l'objet, et qui ne sauraient être, si vous voulez, trop larges. Pourquoi ? Bien parce que cet ensemble d'autorités administratives indépendantes ne s'inscrivent pas dans une logique de démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de responsabilité individualisée des personnes comme lorsque un élu se représente ensuite pour une élection. Ce n'est pas comme un gouvernement qui théoriquement est responsable devant l'Assemblée nationale. Alors bien sûr les actes peuvent être attaqués, on peut mettre en cause la responsabilité de l'institution et éventuellement obtenir d'ailleurs des dommages et intérêts, mais on est sur une logique un peu assez différente, relève un peu de l'expertise, etc. Donc, c'est cette logique des autorités administratives indépendantes qui a mis d'ailleurs du temps à se forger. Et je voudrais rappeler d'ailleurs à cet égard qu'une des faiblesses de notre système, c'est qu'il n'y a pas de cadre constitutionnel véritable qui prenne en compte ce type d'autorité. Nous avons dans la Constitution la référence au gouvernement, au Parlement, à l'administration. Nous n'avons pas, aux collectivités territoriales, nous n'avons pas de référence à ces autorités administratives indépendantes. Donc il y a probablement là aussi une lacune qu'il faudrait combler pour avoir ainsi un statut constitutionnel peut-être plus clair. Je rappelle que l'autorité administrative indépendante, pour que ceci soit clair, notamment pour ceux qui n'ont pas de formation juridique, je pense qu'il y en a un certain nombre parmi vous, mais c'est important de bien le savoir, ce ne sont pas des autorités juridictionnelles. Ce ne sont pas des juridictions. Elles ont un pouvoir de sanction, mais ce n'est pas un pouvoir équivalent à celui de prononcer une décision juridictionnelle. Mais cependant, elles doivent être indépendantes, et en particulier indépendantes à l'égard du gouvernement. Et dans le rapport d'Ozière-Vanès, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est l'insistance qui est mise sur la nécessité de rapprocher davantage ces autorités du Parlement et de faire que le Parlement exerce un contrôle également sur ces autorités administratives indépendantes. Donc il y a là, vous le voyez, des perspectives intéressantes qui sont ouvertes pour essayer de définir ainsi une place dans le fonctionnement démocratique plus sûr pour ces autorités administratives indépendantes. Alors ce pouvoir de sanction, bien c'est un pouvoir sur lequel on avait hésité au départ, mais c'est un pouvoir qui est reconnu à l'ensemble des autorités administratives indépendantes et qui, dans bien des cas, et notamment sur le terrain économique, se traduit par l'infliction de sanctions de nature pécuniaire. Ici, ça sera différent, on le sait, il s'agit d'une suspension de l'accès à Internet pour Adopi, l'intervention d'Adopi, mais il y a une forme de sanction pécuniaire parce que, malgré la suspension, il faut continuer à payer l'abonnement, si vous voulez, pour l'accès à la ligne qui est devenue un abonnement. Donc, voilà, si vous voulez, ce que je voulais rappeler rapidement. Je rappelle aussi que ce pouvoir de sanction est un pouvoir qui doit être limité, je l'ai bien dit, adapté, proportionné, et non pas un pouvoir exagérément étendu, faute de quoi il serait irrégulier, il serait même illégal. Donc, voilà ce que je voulais rappeler, et à cet égard, donc, les décisions adoptées, c'est ce qui est tout à fait dans ce cadre-là, avec application des principes de proportionnalité. Ce qui est très intéressant d'observer, c'est que le Conseil constitutionnel fonde, si vous voulez, l'existence de la sanction, non pas dans un dispositif constitutionnel, ni même dans un dispositif législatif particulier, mais le fonde sur le contrat lui-même. C'est l'inexécution du contrat va faire que, devant acquitter un certain nombre de rémunérations, etc., ou se limiter pour ne pas avoir accès de manière frauduleuse à la fourniture de ces prestations, eh bien, il va falloir donc respecter le contrat et la sanction qui va être prononcée est une sanction pour inexécution du contrat et non pas fondée sur un autre élément. Deuxième aspect, comme je vous le disais, il y a un pouvoir normatif, et j'accélère ici, c'est donc un pouvoir réglementaire qui est reconnu aussi Adopi en particulier, mais à l'ensemble des, pas tous, mais je veux dire, c'est une possibilité pour les autres régulateurs, et cela aussi, c'est un pouvoir réglementaire, qui n'est pas un pouvoir réglementaire général, c'est un pouvoir réglementaire spécialisé, qui n'intervient que pour autant que c'est nécessaire, et généralement en application de règles qui sont des principes, définissant des principes au niveau législatif, voire de règles particulières qui sont élaborées par le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire l'autorité ministérielle, qui est ici en cause. Cet élément m'amène alors à considérer à propos d'Adopi, les perspectives d'évolution sont ouvertes à l'heure actuelle par les discussions en cours et au travers des deux rapports que je vous ai cités, deux rapports parlementaires, dont le dernier, le rapport d'Ozière et Vanès, qui est certainement le plus intéressant par les suggestions qu'il est en train de présenter. Je voudrais d'ailleurs rappeler à ce propos que nous avons déjà mise en œuvre de même logique qui est intervenue à propos de l'application d'une disposition constitutionnelle par l'adoption de lois organiques, c'est le regroupement d'un certain nombre ces autorités administratives indépendantes autour du défenseur des droits. Vous savez que le défenseur des droits est prévu par la Constitution, à l'issue de la révision constitutionnelle de 2008, et là nous avons un certain nombre de regroupements qui sont opérés, la HALT, etc. Il y a, je crois, le défenseur des enfants qui, je pense, risque de peut-être d'échapper à cette demande, mais au départ, on avait prévu, au fond, de 5 autorités administratives indépendantes autour du défenseur des droits. Bien, c'est la même chose qui intervient ici. Nous avons une première proposition qui affecte, alors je laisse de côté les autres, évidemment, je vais vous montrer un secteur qui me concerne, qui affecte la CNIL et la CADA. Il est question de réunir donc la CNIL et la CADA, la CADA étant un peu le sacrifié, parce que vous savez comme moi qu'il n'y a aucun rapport au point de vue de l'importance des moyens en personnel, en budget, etc., de la CNIL, qui est la structure la plus importante par rapport à la CADA, et donc la CNIL, en gros, ça pouvait absorber la CADA. Avec simplement un élément qui est un élément, à mon avis, un peu personnel, c'est la mise en cause de la présidence de la CNIL par, donc, de nouvelle autorité, par un parlementaire. Vous savez pour moi que c'est simplement Alex Turc qui est directement visé, puisqu'il est sénateur en même temps que le président de la CNIL. Donc, ça, c'est le premier ensemble. Le deuxième ensemble qui nous concerne, c'est la réunion d'un certain nombre de régulateurs qui interviennent dans le domaine de la communication et notamment par Internet. Vous avez l'ARCEP, vous avez le CSA, et puis vous avez ensuite donc Hadopi. Et il est question de réunir ces trois autorités administratives indépendantes en un seul ensemble. Et là, j'avoue que je suis beaucoup moins convaincu que la première solution m'a paraissé, il est assez normal, parce qu'il y a quand même une correspondance entre la transparence et puis la protection des données personnelles. Là, notamment avec le CSA, ça me paraît plus délicat, car les objets ne sont pas les mêmes, et en particulier, il y a toutes les compétences qui relèvent du CSA concernant l'intervention dans le processus de nomination des responsables des chaînes de radio et télévision. Donc, à mon avis, on marie un peu des autorités dont les objets sont quand même sensiblement différents. Voilà, donc je pense que je tenais à peu près le délai que vous m'aviez imparti, je vais m'arrêter là, et vous voyez donc que c'est un terrain qui est très riche sur le terrain juridique, sur le plan juridique, avec des difficultés réelles parfois pour réaliser les compatibilités dont vous parlez entre les droits qui sont en cause et dont les fondements sont quand même des fondements particulièrement importants puisqu'on les trouve dans ce qui est en quelque sorte pour nous un socle de notre contrat social, puisque les Américains se réfèrent très souvent à la Constitution de 87 pour notre contrat. Il semble que la Déclaration de 89 s'est actualisée et relue en fonction des nécessités de notre époque et d'un de ces socles qui participent à la définition de notre contrat social.
Merci pour toi. Piqûre de rappel pour certains, juristes, et fixation de cadre qui était intéressante avant d'ouvrir à la discussion et rentrer dans les sujets qui vont nous préoccuper maintenant. Je vais remercier Herman d'être venu jusqu'ici pour parler. Je vais lui donner la parole tout de suite. On reviendra plus tard sur des questions juridiques et telles que liées aux droits d'auteur.
Des petites vocalises avant de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci pour l'invitation. Merci Alexandre et à Kimmet pour avoir organisé tout ça. Je suis ravi d'être ici parce que les sujets qui sont évoqués sont des sujets complexes et qui sont littéralement à cheval entre le droit, la technique, l'économie, et avec un très fort impact sur l'ensemble de nos sociétés. Donc c'est pour moi très important, à titre personnel, de pouvoir échanger sur ces sujets avec des juristes. Alors, je suis cofondateur et porte-parole de la Quadrature du Net. La Quadrature du Net, c'est une sorte de caisse à outils citoyenne pour permettre à chacun de comprendre les processus législatifs et non législatifs qui mettent en danger les libertés fondamentales sur Internet. Nous défendons une vision d'Internet basée sur le partage de la connaissance et sur l'ouverture, plutôt que sur le contrôle et la coercition. Notre titre de noblesse, un de nos titres de noblesse à ce jour, c'est de s'être fait appeler par le Figaro « fer de lance à l'opposition contre la loi Hadopi ». Mais ça n'est pas du tout notre seul terrain ni notre seule préoccupation aujourd'hui. Et j'espère ici avoir l'occasion justement de dessiner un tableau un peu plus vaste. Alors, vu qu'on est chez les juristes, je vais essayer de vous maintenir un plan en deux parties. Dans le premier, Internet et son rapport aux libertés et les menaces qui pèse sur les libertés individuelles. Et dans un deuxième point, le financement de la culture à l'ère d'Internet et la nécessaire adaptation du droit d'auteur. Donc, pour commencer, et pour les juristes en particulier, je vais faire un petit rappel de quelques points qui, à mon avis, doivent à tout prix être pris en considération lorsque l'on va évoquer les questions juridiques et sociales sous-tendues par Internet et les technologies numériques. La première d'entre elles, toute bête, qu'est-ce qu'Internet ? Alors, est-ce que parmi nous, des gens ont une réponse à cette question ? J'en suis sûr. J'en suis sûr de la même façon que je suis sûr qu'il n'y en a pas deux qui vont se recouper. Il n'y en a pas deux fois la même. Alors, je vais essayer de préciser aussi que je vais essayer de faire le plus court possible pour qu'on ait un maximum de temps pour échanger ensuite. Parce que, comme vous le comprendrez, j'ai parfois un petit peu tendance à troller, comme on dit, sur Internet. Donc, qu'est-ce qu'Internet ? Du point de vue du technicien, Internet, c'est l'interconnexion de 40 ou 50 000 réseaux hétérogènes d'ordinateurs. Donc, des réseaux situés physiquement à des endroits différents du globe, des réseaux régis par des intérêts économiques divergents, mais qui pour autant sont interconnectés par un ensemble de règles techniques communes. Ces règles techniques, c'est les protocoles, comme TCP/IP, ça doit sonner comme un gros mot ici. C'est donc un ensemble de règles, le plus petit dénominateur commun de règles qui vont permettre aux ordinateurs participant à ces 40 ou 50 000 réseaux, pardonnez l'approximation, leur permettre de communiquer ensemble. Et donc c'est une sorte d'équilibre assez fragile qui est né de la coopération, qui est né du partage de la connaissance et qui est né de l'ouverture de ces protocoles et de ces règles. Et d'un point de vue plus pratique, parce que la vision technique est un petit peu peut-être éloignée de vos préoccupations, d'un point de vue plus pratique, Internet, c'est la capacité à chacun d'accéder à tous les contenus, services et applications de son choix, sans restriction. La définition que je viens de vous donner ici est également ma définition de ce qu'est la neutralité du net. Donc cette caractéristique fondamentale du réseau qui fait que il y a un seul Internet pour tout le monde. Que vous soyez connecté au Swaziland, au Canada ou au Royaume-Uni, vous verrez le même Internet, vous aurez accès au même contenu, au même service et aux mêmes applications. Donc, si vous êtes un entrepreneur, si vous avez une idée géniale d'un nouvel outil, une nouvelle application, on va dire qu'au lieu de 140 caractères de texte, on va passer à 80, mais qu'en plus on va rajouter une vidéo, et puis que quand on va cliquer, ça va tournoyer, ou je n'en sais rien, voilà, vous avez une idée géniale. Vous avez, de la même façon que vous avez la capacité à accéder à tous les contenus, services et applications, vous avez la capacité d'en déployer. Donc vous avez la capacité de vous gratter la tête dans votre garage avec une citerne de café, passer quelques nuits à pondre du code, à expérimenter quelque chose, puis à le mettre sur un petit coin d'Internet, à demander à vos potes, dites, vous ne pourriez pas tester ce truc. Puis ensuite, de proche en proche, l'ouvrir, jusqu'à devenir en quelques semaines, en quelques mois, le prochain Google, le prochain Twitter, le prochain Facebook. Et je ne vous cite là que des exemples qui sont issus du cerveau de deux ou trois bus dans un garage, selon la formule consacrée. Donc, cette capacité de s'interconnecter, cette capacité d'amélioration de nos sociétés, je ne reviendrai pas sur le potentiel de participation démocratique évoqué par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 1980, cette capacité d'amélioration des démocraties et de nos sociétés est également une capacité d'innovation à partir du moment où aucun acteur ne va appliquer de restrictions sur cette propriété. Alors quand je dis qu'un acteur pourrait éventuellement apporter des restrictions, et là j'entre dans le petit B de ma première partie, c'est donc les menaces qui pèsent sur nos libertés individuelles en réseau. Là encore, je ne reviendrai pas sur le lien entre, vous avez rappelé précédemment, ce droit à la liberté d'expression implique la liberté d'accéder à ces services. Et donc, les menaces sont multiples. Tout à l'heure, vous avez peut-être tiqué quand j'ai dit un seul Internet universel pour tout le monde, qu'on soit au Swaziland ou je ne sais plus où, on a accès au même Internet. Je suis sûr que les plus perspicaces d'entre vous, et même les autres, se sont dit, ouais, mais la Chine. Ah, la Chine. Voilà. Voilà un exemple qui est pertinent. Je dis la Chine, on pourrait parler de l'Iran, la Tunisie, de grandes démocraties à l'intérieur de ça. Lorsqu'un gouvernement a des fins politiques, va choisir de restreindre votre capacité d'accéder à des contenus, services ou applications, on est là techniquement dans une entrave à la neutralité du net, qui donc, mécaniquement, manifestement, entraîne des entraves à la liberté d'expression. Donc, des menaces sur nos libertés en réseau qui sont d'ordre politique. On voit aussi fleurir aujourd'hui des menaces qui sont d'ordre, poussées par des motivations économiques et qui nous viennent en direction des opérateurs de télécom. Les opérateurs de télécom qui n'avaient jamais prévu dans leur radar qu'Internet puisse devenir ce qu'il était aujourd'hui. Au mieux, on vous vendait du Minitel ou du AOL ou des espèces de jardins clos pour ne pas employer l'anglicisme ici. Les opérateurs télécom n'ont absolument pas vu venir Internet. Mais petit à petit, lorsque à partir de 96-98 en France a commencé à se développer, ils ont commencé à racheter les fournisseurs d'accès à Internet et donc à intégrer dans leur giron cette fonction de fourniture d'accès à Internet. Et donc ces opérateurs qui jusqu'à présent avaient des modèles économiques qui étaient basés sur la discrimination, la différenciation des flux, savoir une minute de téléphone passée avec les États-Unis, c'était beaucoup plus cher qu'une minute de téléphone passée avec la France. 10 minutes de communication, c'était évidemment plus cher qu'une minute de communication, etc., se retrouvent avec, dans leur bras, si j'ose dire, des modèles économiques basés sur l'accès illimité. Flat rate en anglais, le forfait, voilà, excusez-moi. Un modèle au forfait où vous payez une fois et vous avez accès à tout. Donc, tant que les choses progressent et qu'on obtient de nouveaux clients, on se dit que ça va, la croissance est au rendez-vous, les actionnaires sont satisfaits, et se fait un moment où on atteint quelque part une masse critique, où aussi de nouveaux usages se font jour, comme l'accès Internet via la téléphonie mobile, qui justifie de nouveaux investissements et également de nouvelles politiques, qui en tout cas permettent de mettre en œuvre de nouvelles politiques. On va vous dire, ah mais bon monsieur, l'Internet mobile, ça n'est pas du tout la même chose que l'Internet filaire. Donc voilà, vous n'y aurez pas accès de la même façon. Et donc, par ces motifs, on voit cette tendance d'opérateurs télécom qui vise à appliquer des restrictions ciblées sur notre capacité d'accéder à tous les contenus, services et applications en ligne, et donc des restrictions à cette fameuse neutralité du net. Alors, ça peut sonner un petit peu abstrait comme ça, ça peut sonner, voire même comme de la science-fiction à vos oreilles, mais posez-vous la question. Lorsque vous souscrivez un accès à Internet mobile aujourd'hui, et j'imagine qu'il doit y avoir une majorité d'entre vous qui utilisent aujourd'hui Internet, un ersatz d'Internet, sur vos téléphones mobiles, il est précisé dans les contrats, chez la plupart des opérateurs en France, que votre accès est un accès dit illimité, mais qui contient seulement 10 mégaoctets de mail. Donc, 1 mégaoctet de mail ou 1 mégaoctet d'Internet, pour Orange, pour SFR, ça n'est pas la même chose. Premier exemple de restriction. Dans votre contrat, on va aussi vous dire, ah, vous avez accès à Internet, illimité, tout comme il faut, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser un logiciel de voix sur IP, du type Skype. Vous n'avez pas le droit non plus d'accéder aux technologies de peer-to-peer. Vous n'avez pas le droit non plus de faire de streaming vidéo. Mais le droit, de quel droit s'agit-il ? Il s'agit juste d'un contrat. Il ne s'agit pas d'une restriction fondamentale liée à un principe technique. Il ne s'agit pas d'une limitation technique, c'est votre opérateur qui vous dit, à partir de maintenant, chez nous, ce sera Internet moins ce qui nous dérangerait. Vous imaginez que si tout le monde utilisait Skype via Internet sur téléphonie mobile, les minutes hors de prix qu'on vous facture lorsque vous passez la frontière belge pour vous connecter à une borne qui est peut-être même située en France, ne pourraient pas être à 5 à 10 fois le prix de la minute de communication normale. De la même façon, si vous utilisiez du streaming vidéo via YouTube ou Dailymotion, vous ne pourrez pas essayer de vous fourguer un Orange TV avec derrière les deals avec les fournisseurs de contenu sur lesquels Madame Albanel, feu ministre, vous paie à son âme, travaille dur en ce moment. On a là une capacité que se sont octroyés les opérateurs télécoms, qui a un impact direct sur cette capacité à s'interconnecter en réseau, sur cette capacité de participation démocratique et cette capacité d'innovation. Alors, pourquoi j'ai cru bon de vous parler de ces menaces-ci, donc les menaces politiques, les menaces en provenance des opérateurs télécoms, parce que un autre type de menace, d'acteurs eux aussi très puissants, nous vient directement des industries du divertissement, des industries dites culturelles. Personnellement, je n'aime pas voir industrie et culture dans le même vocable, on y reviendra sans doute. Et là, pour mieux comprendre la tendance actuelle, et je l'espère vous faire comprendre pourquoi l'Adofi et ses rejetons sont tous inévitablement voués à l'échec, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de se mettre dans les chaussures de ces gens-là. Donc, l'espace d'un instant, imaginez que vous êtes dans un costume qui brille dans les pompes de Pascal Nègre. Et essayons de voir comme ça le monde selon Pascal Nègre. Donc, vous allez voir que ça va nous faire une transition douce vers la deuxième partie. Je ne sais pas si c'est la tradition dans les plans de partie.
Tu peux rappeler qui est Pascal Nègre ?
Pascal Nègre, pardon, le président de Universal Music et vice-président de Universal Music. On a ce réseau de communication qui permet à tout le monde d'accéder et d'envoyer tout type de contenu, toute série de 0 et de 1, qui, à mesure que les technologies progressent, viennent englober toutes les productions de l'esprit humain. Ça a évidemment commencé par le texte, puis par la musique, aujourd'hui par la vidéo, est en train d'apparaître des objets sous forme numérique que l'on va pouvoir fabriquer chez soi avec des petits fabricateurs personnels. Un jour, pourquoi pas, les odeurs, les pensées, bref, un vaste corpus d'ouvrages de science-fiction est à votre disposition pour imaginer l'avenir. Et donc, en étant Pascal Nègre, vous voyez que tout le monde se retrouve avec cette capacité à envoyer ou récupérer des représentations au format binaire de morceaux de musique. Donc, vous aviez un modèle économique basé sur le contrôle de la production, mais également sur le contrôle de la distribution, sur le contrôle des moyens de production des copies. C'est un travail de longue haleine, parce qu'il faut appeler les bonnes personnes dans les bonnes rédactions, les bonnes télés, les bonnes radios, pour s'assurer qu'au bon moment soient passés les bons morceaux qui correspondent aux bons disques qui ont été acheminés vers les bons rayonnages, pour être sûr qu'ils soient vendus. Donc il s'agit vraiment de contrôler l'ensemble de la chaîne, et toute la chaîne de la distribution. Et donc vous voyez cette bande d'anarchos, d'héros, piratos, barbus, plus ou moins louches, inventer des outils qui instantanément séduisent l'ensemble de la population, apportent des bénéfices sociaux, culturels, démocratiques, économiques, etc., qu'on a précédemment décrit, et qui se retrouvent en capacité de faire votre métier à votre place pour une grande partie. Et donc vous vous dites, ces copies qui circulent sans notre autorisation, en plus on a un droit existant, le droit d'auteur, qui dit que sans autorisation l'auteur n'a point possibilité de réaliser de copies. Donc vous vous dites, on va tout simplement tenter d'interdire toutes ces copies numériques, ces copies interpersonnelles. Alors, vous êtes Pascal Nègre, on va dire, en remontant un petit peu dans le temps, vous êtes un Pascal Nègre jeune et plein de fougue au début des années 80. Et donc, vous voyez, en remontant avant Internet, vous voyez déjà les lecteurs de cassettes se transformer en enregistreurs de cassettes, devenir grand public et entrer tous les foyers. Donc, logiquement, vous vous dites, toutes ces cassettes que les gens vont enregistrer, ça va évidemment tuer le business de la vente de cassettes et de vinyles, ça va tuer la musique, ça va tuer les auteurs. Donc il faut faire quelque chose. Donc, aux États-Unis, vous tentez d'instaurer le Audio Home Recording Act, dans lequel chaque enregistreur de cassettes doit réagir à un signal en provenance d'une puce
qui va lui dire si oui ou non la cassette peut être copiée ou non. Bon, il se trouve que techniquement c'est pas faisable, et donc le truc fait pchit, et votre industrie ne meurt pas. Bizarre, étrange. Un petit peu plus tard, une industrie proche de la vôtre, l'industrie du film, voit apparaître le magnétoscope VHS. Horreur, effroi. Jack Valenti, à l'époque président de la MPAA, donc la Motion Picture Association of America, compare le magnétoscope VHS pour l'industrie du cinéma à ce que pourrait être l'étrangleur de Boston à une femme marchant dans la nuit seule. Donc, là encore, pression, lobbying, tentative de décourager ces nouvelles pratiques. Au passage, pour la petite histoire, je ne sais pas si on a un exemplaire ici, l'affiche de la conférence avec cette tête de mort super stylée en forme de cassette audio a véritablement été inventée par l'industrie du disque pour être imprimée sur les vinyles, pour dire aux gens que copier les vinyles sur des cassettes allait tuer la musique. C'est pas ironique, on l'utilise ironiquement aujourd'hui, mais à l'époque ça n'était pas ironique. Et donc de proche en proche, j'aurais pu, mais là Pascal Nègre était même pas né, remonter jusqu'à l'invention du piano mécanique, qui lui aussi allait tuer le cylindre de cire, la musique, les artistes, etc. La musique à la radio, qui elle aussi allait tuer tout ce joli petit monde. À l'époque, la FCC américaine, Federal Communication... Commission, merci, n'a autorisé la diffusion qu'à des stations de radio s'engageant à ne pas passer de musique, jusqu'à s'apercevoir qu'au bout du compte, la musique n'était toujours pas morte et qu'il y avait moyen de tirer des revenus indirects de ces nouveaux usages. Donc, aujourd'hui, se place en 2007 la mission Oliven, donc vous prenez le patron d'un grand groupe de vente de galettes de plastique et vous lui demandez de plancher sur ce terrible fléau des échanges de fichiers numériques qui, vous pensez tout naturellement, vont mettre à mal votre modèle économique de vente de galettes de plastique. On arrive avec une Adopi dont on a décrit les différentes étapes précédemment. Si vous voulez, peut-être au niveau des questions-réponses, je vous expliquerai pourquoi je pense que l'Adopi 2, telle qu'en place actuellement, est morte et enterrée, et qu'il n'y aura jamais une décision de coupure d'accès, ou que s'ils sont assez stupides pour aller jusque-là, elle sera forcément invalidée en long, en large et en travers, jusqu'à la CEDH, s'il le faut, mais ça n'est pas le sujet. L'Adopi fait déjà partie du passé, et sera bientôt reléguée au rang de gadget préhistorique, parce que aujourd'hui, c'est une directive européenne qui s'appelle IPRED, vous avez entendu parler de la première IPRED, donc IPR Enforcement Directive, qui a été votée, si je ne m'abuse, en 2004, puis la directive IPRED 2, qui elle est arrivée en 2005 et qui elle concernait les sanctions pénales. Les sanctions pénales, il y avait un doute sur la compétence des institutions européennes à ce niveau-là, et donc elle a été bloquée au niveau du Conseil, mais maintenant, avec le traité de Lisbonne, on est sûr que ça va pouvoir repartir, et donc la directive IPRED 2 va revenir dans les mois qui viennent, sous la houlette du commissaire français Michel Barnier. La tendance que l'on voit arriver, et dans IPRED, et dans une autre menace, cette fois-ci encore plus globale qu'à l'échelle européenne, qui est celle de l'accord ACTA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet accord ACTA. Petite question, qui parmi vous a entendu parler de l'ACTA? Je vais la main. On l'a dit, vous savez. D'accord. Ça varie en fonction des populations. C'est un accord multilatéral en négociation depuis 2006, qui a été conclu en novembre 2010, donc c'est tout frais, le texte final a été publié le 3 décembre, et donc ACTA pour Anti-Counterfeiting Trade Agreement, donc accord commercial anti-contrefaçon, qui a été lobbyé très 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 fort donc par ces industries du divertissement et par les industries pharmaceutiques, qui concerne initialement des mesures à prendre aux frontières sur le transit de produits contrefaits, mais qui, dès le début, fait l'amalgame entre produits contrefaits et partage de fichiers sur Internet, et donc éventuelle contrefaçon de fichiers numériques, ou en tout cas copie de fichiers numériques sans autorisation de l'auteur. Et donc le même type de mesure est à peu près pris, que ce soit pour les Chinois bâtissant des usines de DVD contrefaits, que pour les individus qui, dans leur cadre privé, vont partager des fichiers avec leurs amis ou avec le reste du monde. Et donc, pour la petite histoire, la chef de la délégation américaine de l'ACTA, donc qui délégation américaine, il y a 39 pays représentés dans l'ACTA, dont les 27 États membres de l'Union européenne représentés par la Commission. Et donc la chef de la délégation américaine était l'ancienne vice-présidente de Time Warner, chargée de la Global Policy, du lobbying global de Time Warner, et avant ça était lobbyiste chez Lily Allen, donc le plus gros labo pharmaceutique américain. Et donc la tendance qui se dessine au travers de l'ACTA et au travers de l'IPRED est donc de faire jouer aux intermédiaires techniques de l'Internet, donc que ce soit les fournisseurs d'accès comme Orange, Free ou SFR, mais également les fournisseurs de services, donc YouTube, Dailymotion, Facebook, Google Cloud, etc., de faire jouer à ces intermédiaires de l'Internet le rôle, ni plus ni moins, de police privée du copyright sur Internet, du droit d'auteur ou du copyright en fonction du côté de la table de négociation.
Si vous me permettez, ça rappelle tout à fait ce qui a été imaginé pour supprimer la déclaration préalable en ce qui concerne les fichiers pour, où on a désigné des correspondants indépendants auprès des organismes.
Alors,
et donc, il y a quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à la même démarche.
Alors, cette tendance de la privatisation du droit est effectivement quelque chose qui pose des questions profondes, fondamentales. Dans la DOPI, tout repose sur des constats qui sont faits par des entreprises privées, par des organismes privés. Donc on n'a pas hésité à les qualifier de police privée de l'Internet, vu que ces organismes se livrent à de la surveillance d'espace public, à des constats d'infraction et à des relevés de preuves. Trois missions qui, jusqu'à preuve du contraire, font partie des missions de la police. Ce sont même des missions exclusives de police. Et donc, cette tendance lourde, au travers de l'ACTA et au travers de l'IPRED, est de faire jouer à des acteurs privés le rôle de policier du droit d'auteur, en leur faisant directement obéir à des requêtes en provenance des industries du divertissement. Donc, tel film à tel endroit, tel fichier ici, tel URL, ça enfreint notre copyright ou notre droit d'auteur, donc on vous somme de, petit 1, resserrer les contenus, petit 2, couper l'accès à tel utilisateur, petit 3, restreindre l'accès de tel utilisateur à tel type de contenu, etc., etc., sous un vocable très qui semble inoffensif de coopération, on impose un lien direct entre les industries du divertissement et les acteurs qui font l'Internet et qui sont intermédiaires entre cette liberté d'expression et de communication, entre ces bénéfices sociaux et culturels économique entre cette capacité d'innovation et nous. Donc là, il y a un problème majeur. Et donc pour la fin de cette partie sur Internet, liberté et les menaces, et ouvrir sur la suivante, il va falloir faire le lien entre cette quête que je n'hésite pas à qualifier d'absurde, qui pour moi revient à tenter de vider la mer avec une petite cuillère de ces industries, de décourager les copies, de dissuader les copies, d'empêcher tout un chacun de réaliser ses copies soi-même, et le droit d'auteur. Et donc, c'est l'objet de ma seconde partie. Une question qui a été éludée dans la DOPI, et qui pourtant était fondamentale. Et là, je pense pouvoir affirmer sans me tromper que le gouvernement a raté une occasion unique d'y répondre, et celle du financement de la création à l'ère numérique. Il nous a dit Adopi pour protéger les auteurs, Adopi parce que les auteurs meurent de faim, Adopi parce que si on continue les clics, et bien un jour la musique n'en aura plus. Adopi parce que, on a entendu Christine Albanel le dire à la tribune, Adopi parce que Bienvenue chez les Ch'tis a été téléchargé au moins 534 000 fois. Pensez-vous, mon bon monsieur. Il se trouve que dans les mois qui ont suivi, Bienvenue chez les Ch'tis a fait les records absolus en France de vente de DVD, après avoir fait les records absolus d'entrée en salle. Mais les exploitants étaient bien sûr sous le coup d'un danger immédiat. Donc cette question qui a été complètement éludée devant une impérieuse nécessité à passer la Dolby, est pourtant, à mon sens, fondamentale. Pour faire le lien donc avec notre ami Pascal Nègre et son modèle basé sur la vente de copies et sur la distribution de copies, il faut faire la part des choses entre le modèle économique de ces intermédiaires de la culture, qui sont donc les producteurs, les éditeurs et les distributeurs de copies, de disques ou de DVD, et les revenus des artistes. Et ça, c'est une distinction qui n'a pas été opérée, quand je dis artistes, pardon, c'est les auteurs et les artistes, c'est une distinction qui n'a pas été opérée dans les discours autour de la Dolby. Et je vous invite à poser la question autour de vous, si vous connaissez des auteurs ou des musiciens, de la proportion de leurs revenus qui découle de la vente de disques ou de DVD, vous serez surpris. C'est en général portion congrue, pour ne pas dire quasi nulle, de leurs revenus. Et donc, déjà, si on se préoccupait de la question des revenus des auteurs et des artistes, première chose à attaquer, ce serait les contrats de production. Alors, je sais qu'il n'est pas forcément de bon ton dans ces cercles d'attaquer des contrats, parce que le droit des contrats ne requiert pas l'intervention du législateur, est quelque chose de tout à fait privé. Bon, entre nous, on sait tous qu'il s'agit d'un rapport de force, et que dans ce rapport de force, les auteurs et les artistes sont très souvent la partie faible, voire la plus faible, voire très très faible. Aux États-Unis, le contrat moyen de production musicale porte sur 7 albums, soit plus que la plupart des artistes n'en feront dans toute leur vie. Donc ça vous donne une idée de la violence de ce rapport de force, et dans lequel, pour les auteurs et les artistes, si la négociation est bonne, ils peuvent espérer au maximum quelque chose de l'ordre de 8% du prix des ventes, une fois qu'auront été remboursées les avances faites par leurs producteurs et qui leur servent notamment à s'acheter les clips, la promotion, les pubs à la télé, les pubs papier, etc., etc., qui sont le tout vendus clé en main par le producteur. Donc, hors taxe, sans doute, effectivement, et à tout gros, j'imagine. Et donc, s'il était question de financement de la création, on a là matière à discuter et à réfléchir et à potentiellement changer les choses en faveur des auteurs et des artistes, mais on est là dans le droit privé, donc on ne va pas trop y mettre le nez. Ensuite, regardons un petit peu plus sérieusement ce qui fait le revenu des auteurs et des artistes aujourd'hui. Vous verrez dans une étude d'octobre 2010 que je tiens à vos dispositions, et je vous donnerai d'ailleurs une adresse où vous pourrez trouver un certain nombre des études que je vais citer ici, que littéralement depuis l'année où Napster est apparu, Napster c'était donc le premier réseau de partage de fichiers peer-to-peer, depuis l'année de Napster, les concerts ont littéralement explosé aux États-Unis. Parlez-en à n'importe quel exploitant de salle en France, parlez-en à n'importe quel tenancier de café qui a une petite arrière-salle dans laquelle il organise des concerts, parlez-en à n'importe quel gestionnaire de MJC ou d'association culturelle, le spectacle vivant est en explosion depuis, alors moi j'ai tendance à vous dire, depuis le partage de fichiers sur Internet. Les industries vont vous dire je ne sais pas d'ailleurs quelle est leur explication là-dessus, et j'imagine qu'ils n'en ont pas de convaincante. Pour la bonne et simple raison que, là encore, il s'agit d'un certain nombre d'études, toutes plus scientifiques et indépendantes les unes que les autres, que je tiens à votre disposition. Peut-être que tu feras tourner cette adresse, ou je le ferai. Non, peut-être pas là-dessus, mais l'intérêt quelque part avant de partir. Une étude du gouvernement canadien, une étude du gouvernement néerlandais, une étude de l'OCDE qui date un peu, elle, de 2004, une étude de l'Ipsos Allemagne dans 8 États membres européens, une étude d'un centre de recherche universitaire en Bretagne et un certain nombre d'études universitaires américaines démontrent que les gens qui partagent le plus de fichiers sur Internet sont aussi ceux qui vont le plus à des concerts et qui sont ceux qui dépensent le plus pour des biens culturels. Et c'est même, j'ai oublié de la citer, celle-là, elle est pourtant croustillante, une étude lancée par l'ADOPI elle-même, financée à hauteur de 90 000 euros de ces 12 millions d'euros annuels, je vais appeler ces chiffres, parce que voilà, il faut même remettre les choses dans leur contexte. Donc dans cette étude, l'ADOPI elle-même a démontré que les gens qui admettent partager des fichiers sur Internet dépensent plus pour des disques, pour des DVD, pour des concerts, pour des jeux vidéo, etc., que le reste de nos concitoyens. Et donc, dans ces sources de revenus externes, il y a le spectacle vivant, le concert. On va faire une espèce de parallèle plus ou moins hardi en disant que dans le monde du cinéma, l'équivalent du concert serait l'entrée en salle. Et donc là, on voit que pour 3 années consécutives, la France a battu des records historiques d'entrée en salle de cinéma. Seulement plus 12% pour l'année 2010, par rapport à plus 32% pour l'année 2009, par rapport à plus 20 et quelques pourcents pour l'année 2008. Donc des records depuis, je crois, les années 60, qui n'avaient pas été atteints. Donc, les spectacles vivants, en faisant cette analogie de l'entrée en salle et du spectacle vivant, se portent plutôt bien. Mais également, ce qu'il faut absolument prendre en compte pour avoir une vision globale de ce tableau-là, ce sont tous les actes, tous les modes de revenus que l'on pourrait qualifier de services, qui sont ceux des auteurs et des artistes et qui sont aujourd'hui permis par une meilleure reconnaissance de leur public. Quand je dis services, c'est par exemple des œuvres de commande, ou c'est se faire payer une licence pour utiliser un morceau pour un documentaire, pour une œuvre cinématographique, pour je ne sais quoi. Donc tous ces revenus indirects qui ne découlent pas de la vente de copies physiques sont, et c'est même pas un pari que je fais ici, mais c'est les faits qui le démontrent dans ces nombreuses études et chez tous les artistes aujourd'hui qui les expérimentent, sont stimulés à mesure que la notoriété de ces artistes augmente. Et la notoriété de ces artistes augmente à mesure que leurs fichiers sont partagés, que leurs œuvres sont visibles. Et donc, si l'on fait ce constat-là, alors je ne vous demande pas de me croire et de prendre tout ce que je dis pour argent comptant, vous allez aller à cette adresse qui est lqdn.fr/wiki/document avec un D majuscule et au pluriel, c'est l'adresse que je voulais vous écrire quelque part, et vous allez constater par vous-même cette vingtaine d'études indépendantes qui confirment ce que je suis en train de vous dire. Donc je ne vous demande pas de me croire, mais si on partait du principe qu'il y a là débat, et que la question n'est pas réglée, que cette question centrale, qui est celle d'un supposé préjudice causé par le partage de fichiers en ligne, n'est pas tranchée, que dans un cas, on vous dit « c'est la mort de l'industrie », et en même temps, ça fait 15 ans qu'ils pleurent, et 15 ans que les résultats opérationnels nets de Vivendi sont en progression, ça fait, allez, on va dire 10 ans, on va dire Napster c'est 99, donc oui, on va dire 10 ans, on arrondit ça. Cela fait aussi maintenant 5 ans que l'industrie du film pleure, et on l'a dit, les records d'entrée en salle historiques ont été constatés cette année. Donc, admettons ici qu'il y a débat, et posons-nous la question, s'il y a débat et que l'on n'a pas tranché cette question du préjudice, et qu'on a même matière à penser qu'il y aurait un bénéfice à ce partage de fichiers pour l'économie, de la culture, de la création, alors pourquoi continuer sur ce chemin de tenter d'interdire à tout prix les copies avec des dispositifs comme l'ADOPI qui, ça n'est pas rien, dans sa première version, violait la liberté d'expression. Donc, on va se dire, c'est le droit d'auteur, c'est comme ça. Non, vous êtes juriste, vous êtes jeune, vous savez donc que le droit est la cristallisation de la société à un instant donné, et que c'est la société qui fait le droit, et non l'inverse. Quand on a essayé dans l'histoire de prohiber, par exemple, la consommation d'alcool dans certains pays, ou d'interdire aux femmes de porter des pantalons ou l'adultère, ou des choses comme ça, il y a toujours eu un moment où on a dû s'apercevoir que l'on était dans l'erreur, et aussi au droit de vote des femmes, et changer les choses. Si le droit est mauvais, on change le droit, et c'est très bien comme ça. Et donc, se poser la question, et je vais tenter de conclure parce que j'ai déjà un petit peu dépassé, je pense, conclure donc par le petit b de mon grand 2, qui est cette nécessaire, enfin non, il va falloir une conclusion après pour que le plan soit parfaitement conforme, pour boucler ce petit b sur la nécessaire adaptation du droit d'auteur, on va faire un petit peu de prospective ici, et je vais vous livrer ce qui est que ma modeste vision de ce que pourrait être un droit d'auteur adapté aux technologies, adapté aux usages sociaux, et surtout adapté à cette impérieuse nécessité de garantir la capacité d'interconnexion des individus, et au passage, de garantir la capacité d'interconnexion des artistes avec leur public, afin de leur permettre d'imaginer ces nouveaux modèles économiques, ces nouveaux modes désintermédiés, je ne sais même pas si c'est un mot en français, mais ces nouveaux moyens de directement expérimenter la vente de supports à valeur ajoutée, numérotés, la vente d'exemplaires personnalisés, la vente d'objets collector, la participation à des fan clubs, la participation, vous avez entendu ce terme, de crowdfunding, de financement en amont par le public, etc., etc. Donc, il est impératif de garantir qu'un Internet libre, ouvert, donc neutre, continue d'exister pour permettre à ces liens directs de se faire entre les artistes et leur public, ce qui est sans doute la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la création depuis la presse imprimée, depuis Turner, ou peut-être depuis le micro-sillon. Comment faire pour adapter le droit d'auteur pour, au lieu d'aller jusqu'à casser l'Internet, permettre de le laisser en vie, de le laisser sur patte. Ça semble comme un problème insoluble, et pourtant, je suis convaincu que la solution est là, sous nos yeux. Et je ne vais pas vous apprendre que dans le droit d'auteur, il existe le régime des exceptions. Les exceptions au droit d'auteur. Si on voit le droit d'auteur comme un droit d'équilibre entre les intermédiaires, les auteurs et les artistes et leur public, ce qu'il était au départ, les exceptions représentent les droits du public, représentent la partie de cet équilibre qui est liée au public. Et j'aimerais, pour le dire, si j'arrive à le trouver, vous citer Le Chapelier, Isaac Le Chapelier, qui était, vous le savez mieux que moi, rapporteur de la toute première loi sur le droit d'auteur en France en 1781, si je ne m'abuse. En 91, bien sûr, deux ans après la Révolution. Donc, je m'abusais. Voilà. Donc, à la tribune de l'Assemblée, Isaac Le Chapelier, en 91, déclarait « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage du fruit de la pensée d'un écrivain. » Et lorsque vous allez parler avec les gens de l'industrie du disque ou du film, ils vont s'arrêter là. Regardez mon bon monsieur, c'est une propriété absolument inattaquable. Sauf que Le Chapelier continue et dit « Lorsqu'un auteur fait imprimer un ouvrage ou représenter une pièce, il les livre au public, qui s'en empare quand ils sont nés, qui les lit, qui les apprend, qui les répète, qui s'en pénètre et qui en fait sa propriété. Il ajoute que le droit de l'auteur de disposer de l'ouvrage doit être vu comme une exception, car un ouvrage publié est de sa nature une propriété publique. Que de chemin parcouru depuis cette première loi sur le droit d'auteur. » Et alors, puisque j'y suis, j'ai dans le même fichier texte, hein, vous me pardonnerez, je les ai piratés toutes les deux, une citation de Victor Hugo dans son discours d'inauguration du Congrès international de littérature en 1878, donc presque un siècle après, qui disait « Le livre comme livre appartient à l'auteur, mais comme pensée, il appartient, le mot n'est pas trop vaste, au genre humain. Toutes les intelligences ont le droit. Si l'un des deux droits, le droit de l'écrivain ou le droit de l'esprit humain, devait être sacrifié, ce serait certes le droit de l'écrivain, car l'intérêt public est notre préoccupation unique, et tous, je le déclare, doivent passer avant nous, marque nombreuse d'approbation. Donc, de cette vision d'un droit d'auteur, dans lequel le public était un élément central, le public est évidemment, il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas d'auteur sans le public, on a, au fil du temps, transformé, on l'a transformé en une sorte de monstre dans lequel il n'est absolument plus la place, il n'est plus la possibilité, dans son domicile, de réaliser des copies pour son usage personnel. Vous avez peut-être tous en tête les fameux DRM, ces menottes numériques qui ont été sanctuarisées juridiquement par la loi Datsy, la loi ancêtre de la DOPI, dans laquelle les fabricants obtiennent le droit de dire « Tiens, ce disque ne sera copiable qu'une fois, ce morceau de musique ne sera écoutable que sur les baladeurs de la marque Banane, où ce fichier s'autodétruira dans les 5 secondes, Monsieur Phelps. » Donc, on a poussé le droit d'auteur dans une vision tellement extrémiste, je ne vois pas d'autre mot, que les droits du public ont été littéralement balayés. Le droit d'auteur est en train de faire face à une crise de légitimité globale. Et je ne vous parle pas là de la Chine, de l'Inde, de la Russie ou du Brésil, mais poser la question à des ados et demander-leur si, quand ils vont copier des fichiers sur Internet, ils font quelque chose qui est mal, qui est moralement répréhensible, et vous diront que non, que ce n'est évidemment pas du tout la même chose que de voler un disque dans un magasin. Parce que quand il y a un disque sur un rayon et qu'on en vole un, il en reste zéro. Parce que 1 moins 1 égale 0, parce que le vol est une soustraction frauduleuse, soustraction. Alors que lorsque l'on copie un fichier, on multiplie l'information. Et donc un gamin de 12, 15, 18 ans sait très bien aujourd'hui qu'une soustraction, ça n'est pas une multiplication. Une copie de fichier, ça n'est pas un vol. Et donc cette crise de légitimité globale du droit d'auteur, qui aujourd'hui court pour 70 ans après la mort de l'artiste, sérieusement, dans quelle profession 70 ans après votre mort, vous savez que les revenus vont encore tomber. Et je vous dis 70 ans, bientôt on va passer à 90, parce que Mickey risque de tomber dans le domaine public, et après 90, on passera sans doute à 110 et à 130, etc., etc. Donc il est urgent de remettre de l'équilibre dans ce droit malade qui est devenu le droit d'auteur. Il est urgent de repenser les droits du public, et pour cela, on a un outil qui existe déjà, et ce sont les exceptions. Donc, ce que nous prenons, ce que nous recommandons, c'est tout simplement d'intégrer dans le droit d'auteur une exception pour partage privé entre individus et sans but commercial. Si vous êtes un individu, que vous êtes chez vous, que vous ne vous enrichissez pas, alors il n'y a pas de préjudice. Et à partir du moment où on a mis en œuvre cette exception, oui, on peut réfléchir à des nouveaux modes de financement de la création. Par exemple, le mode de financement mutualisé, ça n'est pas un gros mot, enfin, pas pour tout le monde. La redevance pour copie privée et le prélèvement qu'il y a sur les supports vierges est en augmentation constante depuis le vote de la loi de 1985, qui, je le rappelle, a été votée à l'unanimité à l'époque. Et les députés sur tous les bancs, à l'époque, avaient dit que la seule alternative était de mettre un policier derrière chaque enregistreur de cassette et que donc on allait faire une redevance pour copie privée. Donc cette redevance pour copie privée rapporte 350 millions d'euros par an qui sont répartis de façon plus ou moins louche, et là aussi on pourrait en parler. De la même façon, nous proposons une contribution créative, et nous ne sommes pas là à dire que c'est la seule solution, la meilleure solution, on dit juste, il y en a une, c'en est une parmi d'autres. Donc, si l'on prélevait de 3 à 10 euros par mois sur chaque accès au débit en France, pour un montant de 5 euros par mois, on collecterait, non pas 350 millions, mais 1,2 milliard par an que l'on pourrait répartir entre les auteurs et les artistes de musique, de films, et pourquoi pas aussi de vidéos, de blogs, de presse. C'est un modèle qui peut se répliquer, qui peut s'étendre. On pourrait également prélever sur les téléphones mobiles qui valent 500 euros, qu'on vous vend à 79 avec un forfait, et qui pourraient très bien être à 89 ou à 90, ce serait parfaitement indolore. On pourrait penser à des prélèvements sur le matériel informatique, etc., etc. Et là, il y a un vrai sujet de société, il y a un vrai débat politique. Est-ce que, oui ou non, la société tout entière doit faire le choix de financer la création, comme on finance des bibliothèques publiques. Je pense que oui, mais c'est un sujet qui est ouvert. Et donc, en guise de conclusion, et je suis confus d'exprimer ici un léger désaccord avec ce que vous énonciez tout à l'heure, non, la copie de fichiers numériques, ça n'est pas le vol, et non, le droit d'auteur, ça n'est pas comme la propriété physique des biens. Ce vocable même de propriété intellectuelle est trompeur. La propriété, c'est quelque chose d'inaliénable et d'incessible. Là où tous les droits qui sont assimilés sous ce vocable de propriété intellectuelle, que ce soit droit d'auteur, droit des brevets, droit des marques, obtention végétale, etc., sont des droits qui expirent dans le temps, qui sont sujets à exception, et pour lesquels il existe notamment des licences obligatoires où l'État peut dire « bon, ben là, tel brevet, on arrête, etc. » Donc, par nature, ce sont des droits tout à fait différents. Et si on finit avec ce dogme, avec cet extrémisme de nier les droits du public et de vouloir toujours pousser vers plus de contrôle, si on en finit, on a peut-être une chance de sauver Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, cet Internet que l'on aime tous et qui nous sert à nous améliorer et améliorer nos sociétés. On a peut-être encore une petite chance de le sauver, et je vous invite tous à participer à cette nouvelle entreprise.
Je reprends juste la balle au bon, s'agissant du droit d'auteur. Dire qu'on fait... On fait sensiblement la même analyse à quelques nuances près. Je vais aller très vite parce que le temps vous est compté. Il faut éviter d'être enfermé dans l'université. D'autant plus que vous avez évoqué la prohibition, il y a un peu la faute qui nous attend à la sortie. Il faut prendre le temps de consommer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'irai même plus loin sur les voies qui se sont succédées de l'Asie, la dernière voie adoptée. Et jusqu'au projet, ces voies sont éminemment politique. Je ne reviens pas sur les conditions dans lesquelles la loi Zazie a été débattue, si l'on peut dire, c'est un bien grand mot, avec une programmation tardive par rapport à la directive de 2001, en procédure d'urgence, fin décembre, quelques jours avant la fin de la session parlementaire, avec un catimini, un secret, un ministre refusant de répondre à des questions qui lui étaient posées par un député justement sur les exceptions, et quand il négociait par ailleurs sans vouloir la mettre dans la loi, l'exception de pédagogie, qu'il soumettait déjà à paiement de compensation, la manière dont on a été sensible au lobbying, la manière dont même la Cour de cassation a fait du lobbying, qui m'avait mis une phrase d'arme, j'ai été conseillé, puisque l'arrêt de l'Olandra, il est curieusement intervenu le 28 février, juste au moment où il fallait en 2006 reprendre la discussion, etc., etc. Je ne crois pas que ce soit le rôle de la communication de faire du lobbying. La manière dont effrontément, en dehors de Denis Oliven, juge parti, évidemment, quand on nomme quelqu'un, en général, à la tête d'une commission qui est amenée à réfléchir, on y met les formes, en juriste spécialisé, etc. On y met les formes, là non, il va, bien évidemment. C'est d'ailleurs très curieux, des œillères aussi de temps en temps, car au moment où on peut sanctionner ce qu'est une coupure d'Internet, en même temps, le président de la République lançait un plan pour l'accession de l'audit à tous, et était donc par ailleurs bien conscient, lui, était conseillé de l'importance d'Internet, ce qui est quand même assez paradoxal. Bon, on pourrait dire d'ailleurs qu'à l'audit 2, quand ils vont vers la procédure de l'ordonnance pénale, c'est-à-dire sans contradictoire, avec un juge libre, etc., c'est-à-dire là-dessus, sur la manière dont on contourne un code, même si on dit, bon, je n'ai pas sens, ce qui avait été dit auparavant. Bon, sur le droit d'auteur, c'est-à-dire que la manière dont le droit d'auteur a été utilisé est d'une manière dévoyée, il y a un effet de rupture, on pense ce qu'on veut du droit d'auteur, mais fondamentalement, la vocation du droit d'auteur n'a jamais était d'interdire l'usage d'un média nouveau. C'était de l'accompagner dans le respect des intérêts des ayants droit, jamais d'interdire. Et effectivement, on a toujours poussé des hauts cris, et effectivement, logo qu'on a pris malicieusement sur la fiche, là, pour le rappeler, à chaque fois qu'il y a eu une mutation technologique, effectivement. Mais c'est la première fois que le droit d'auteur est ainsi instrumentalisé en réponse à un lobbying pour pouvoir interdire et pouvoir priver effectivement d'une discussion qui aurait été une discussion plus large sur la place de la création intellectuelle d'abord et puis ensuite une réflexion sur l'économie de la création. Je crois que le droit d'auteur en lui-même et le droit de la création méritait mieux que ces pantalonnades pour ne rien dire des mots qui ont été échangés à l'Assemblée quand on relit les débats. Alors, sur les suites, effectivement, je pense qu'il faut rompre, quand vous avez dit un supposé préjudice, effectivement, il faut rompre avec cette logique indemnitaire qui pouvait être de bon ton quand on disait en 85 qu'il faut compenser le manque des données du fait de la copie privée sur le genre audiovisuel. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Le seul point sur lequel je diverge avec vous, c'est sur l'utilisation des exceptions. Je pense qu'il faudrait, mais ça revient un peu au même, sauf sur le plan du principe. Pour beaucoup de raisons, les exceptions sont difficilement utilisables comme ça, mais je pense qu'il faut substituer à la logique indemnitaire une logique qui serait beaucoup plus simple et qui serait une logique visant à définir ce que pourrait être, et c'est là qu'on se rejoint positivement, une exploitation domestique. Et cette exploitation domestique, qui ferait un acte positif d'exploitation, rentrerait tout à fait dans la logique du droit d'auteur et dans sa mission d'origine, c'est-à-dire définir comme un droit d'exploitation, positivement, pas une exception, la contribution qui serait mise en œuvre pour pouvoir compenser, évidemment financièrement, sur ce type d'exploitation. Voilà, je crois, quel serait l'objectif nécessaire. Qu'ensuite on puisse être, à titre transitoire, sensible aux intérêts qui sont aux intérêts a priori divergents de certaines industries, qu'il y ait une période transitoire, que l'on envisage effectivement qu'il puisse y avoir à titre transitoire pour l'industrie du disque, parce que les mecs ont complètement vu ses intérêts, une mise en place peut-être à l'image de la chronologie média, qui de toute façon n'est pas viable, n'est pas la panacée, loin de là, mais qu'on puisse dire que par rapport à une date de publication de disque, de film, il puisse y avoir une période pendant laquelle il y a une période de monopole à la vente, pourquoi pas, à titre transitoire, même si c'est voué à l'échec dans le futur. Mais pourquoi pas, qu'on pourrait calculer.
Tant que l'œuvre n'a pas été diluée en format numérique, oui. Ça reste de la contrefaçon.
Oui, ça c'est autre chose. Non, par rapport à la publication, on peut très bien calculer, mais la discussion aurait eu lieu sur le territoire, on peut très bien savoir quel est, statistiquement, comme pour le livre, le profil, la durée de vente d'un disque, et voir à partir de quel moment il faut ménager peut-être une exclusivité pour la vente, et ensuite passer effectivement une forme qui pourrait être une forme de licence légale. La licence légale, on connaît bien, et la licence légale, elle est là, le disque, par exemple, dans les voisins, pour entériner une pratique sociale qui s'est imposée. La question est aujourd'hui d'arriver à reconnaître qu'il y a une pratique sociale qui s'impose dans l'utilisation des œuvres qui sont sur le net, et le fait de constater. Et à partir de là, je fais d'une manière simple de pouvoir décider qu'il puisse y avoir une licence. Quitte, évidemment, à la négocier de façon très, très précise par rapport à un profil économique. Et effectivement, on peut complètement y aller, mais la volonté politique ici a été une volonté politique de totalement impérialiste. Je crois que c'est là que le point de vue est. Mais je suis persuadé que l'exploitation domestique est positive et le seul moyen de s'en tirer, plutôt que passer par des exceptions. En même temps, ça serait dans la logique du producteur, tout à fait, et surtout de le réhabiliter dans sa mission, qui est sa mission d'origine, et qui effectivement est tout à fait un grand dévolu.
Il y a aussi le choix d'artiste.
Pardon ?
Le choix d'artiste. Le public choisit son artiste d'origine.
Oui.
Une période où vous imposez les artistes, on ne peut pas les choisir.
Oui.
On est dans un choix limité. Et leur dit, aujourd'hui, on achète des choses. On demande de perdre cette partie-là. C'est plus qui les choisit, mais ça, c'est un secteur. On les rattraper après.
Allez, deux ou trois questions pour mériter l'apéritif.
Ma question, une autre question, est-ce qu'il existe un pays sur la planète où ces échanges de fichiers, de copies seraient légaux?
Alors, en Espagne, il y a une jurisprudence assez costaude qui dit que le téléchargement et la copie privée, et certaines décisions qui disent même que le partage. Donc, on a fait dans des décisions en France cette absurde distinction entre téléchargement d'un côté et upload, entre download et upload, des anglicismes. Alors qu'en réalité, tout download vu d'un côté, et si on regarde de l'autre côté, c'est un upload et la connexion étant symétrique, on a essayé de calquer là la mise à disposition du public, mais en réalité, ce concept n'existe plus dans les communications pair à pair. Donc en Espagne, il y a une jurisprudence assez solide là-dessus, et on voit que le gouvernement est en train de passer en force une loi qui va peser sur les intermédiaires techniques pour leur faire la police eux-mêmes. La loi a déjà été rejetée et montagne de lobbying dessus, et elle est en train de passer.
Parce que ce que je me dis, c'est, imaginons qu'un gouvernement, un pouvoir exécutif, un législatif, essaye de transformer ses modes de rémunération des auteurs, comme tu l'as décrit, on risque de nous répondre, oui, mais si un seul pays fait ça, les lobbies des autres pays exécutifs qui n'ont pas fait ces décisions vont tomber sur ce pays, prendre des mesures coercitives éventuellement pour refaire basculer, pour empêcher le passage à ce type de rémunération qui n'est pas compatible avec les autres pays. Et donc, il serait capable de dire, oui, bon monsieur, pour que ce soit possible, il faut que ce soit global.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que vous avez raison, mais le Brésil, en réalité, jusqu'à il y a quelques semaines, un pays que j'aurais cité comme étant particulièrement progressif en la matière. On se souvient que le ministre de la Culture de Lula était Gilberto Gil, que Gilberto Gil mettait toute son œuvre en Creative Commons et disait partager, partager, partager. Donc, était en train de se décider, est en cours de discussion au Brésil, une Marco Civil de l'Internet, je ne me souviens plus du nom exact de cette loi, mais qui est une loi gigantesque qui contient la neutralité du net, quelque chose de vraiment, vraiment enthousiasmant, qui allait dans cette direction-là. Et là, une fois Dilma élue, la nouvelle ministre de la Culture, première chose qu'elle fait lorsqu'elle arrive, c'est enlever la mention Creative Commons du site du ministère de la Culture. Et ses premières déclarations laissent à penser qu'elle serait en train de faire un demi-tour. Donc oui, on peut imaginer des pressions internationales assez fortes. Une lueur d'espoir. Et là encore, si on m'avait dit qu'il y a quelques années, je verrais de l'espoir dans l'ONPI, c'est vraiment... Je serais tombé bien bas. Mais non, depuis maintenant 5 ans, on s'aperçoit, donc l'ONPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, que les pays du Sud, le Brésil, la coalition des pays africains et l'Inde notamment, sont en train de freiner les cas de fer face aux pays occidentaux en disant non, mais arrêtez un petit peu avec votre dogme de plus de copyright égale plus de protection égale plus de mieux, et sont en train de poser la question, notamment sur l'accès aux médicaments et les licences génériques, d'autres modèles. Donc, il est permis d'imaginer que peut-être un peu.
Il y avait ensuite, je crois, une question. Deux questions.
Je crois que monsieur Devant était plus.
Ouais. D'abord, une mauvaise nouvelle, Jérémy, comme souvent, je suis désolé, j'ai eu le plaisir, l'honneur de rencontrer monsieur Pascal Nègre. Et c'est malheureusement quelqu'un d'assez charmant, intelligent et d'une grande finesse intellectuelle, ce qui rajoute au désespoir. Il est le dernier défenseur d'un dinosaure en train de disparaître et il fait tout ce qu'il peut pour essayer de sauver ce dinosaure. Je ne sais pas si on a besoin de s'attarder sur la disparition de ce dinosaure qui n'a pas su s'adapter, pas su se transformer au changement des technologies et des... Je ne sais pas si c'est important de tout focaliser sur l'importance qu'a dans l'organisation du monde une industrie qui est en train de disparaître.
Alors, la personnification n'était peut-être pas bienvenue. Le problème est que quand ce dinosaure, en mourant, se débat tellement qu'il va tout... vous savez, comme la bête malade acculée... quand en se débattant, il va tout déchirer, tout tuer autour de lui, là, je pense qu'on est en droit de pointer le doigt. Qu'ils aient du mal à s'adapter, il y a nombre de paramètres internes à ces industries que l'on pourrait lister très précisément pour savoir pourquoi, effectivement, ils vendent de moins en moins de galettes de plastique. Je sais pas vous, moi, j'ai plus de lecteur de CD à la maison, et 70 minutes de musique pour le prix d'une clé USB qui en contiendrait environ 5000, ça me semble un petit peu bizarre, et puis ça prend la poussière. Mais tout de même, il y a quelque chose à pointer du doigt ici, lorsque l'on voit, bah, ça a été décrit précédemment, l'influence néfaste que ces gens-là peuvent obtenir, la puissance de leur lobbying, et le déni flagrant des principes les plus élémentaires de notre démocratie, au premier rang desquels la défense des libertés fondamentales. Donc, au même titre que on peut dire, non, c'est un troll presque, on pourrait parler des industries du tabac, par exemple, et de leur comportement vis-à-vis de la santé publique, des petits-enfants dans les pays africains, etc., et dénoncer des comportements que l'on jugerait contraires à l'intérêt général. Je pense que ça fait partie de notre rôle de citoyen, non seulement s'intéresser aux mauvaises lois lorsqu'elles sont votées pour de mauvaises raisons, mais aussi à tout le mécanisme de lobbying qui a été décrit, et là on pourra en discuter parce qu'il y en a eu des belles sur la tête, qui conduit à ça. C'est notre société tout entière qui est en train de basculer vers une espèce de contrôle, notre Internet qui est en train de se transformer en une espèce de Minitel 2.0, pour reprendre les propos de
notre ami. Justement, c'est l'introduction de ma question. Est-ce qu'on ne doit pas transporter notre intérêt sur le fait que chacun doit non pas avoir le droit d'accéder à l'information ou au service, mais que chacun doit être en mesure de produire du contenu et du service, et c'est en garantissant cette liberté que du coup on va sauver Internet et on va faire en sorte que chacun, que ce rôle de pair à pair que vous décrivez, puisse être garanti. Et c'est là-dessus que les technologies actuelles et les usages actuels sont en train de nous faire dériver lentement vers, d'un côté, des fournisseurs de contenu et de services, et de l'autre côté, des consommateurs de contenu et de services. Donc est-ce que c'est pas plutôt là qu'on doit mettre
l'accent ? Aussi, tu noteras que ça faisait partie de ma définition de la neutralité du net, et donc de ce principe qui, je pense, est fondamental et que l'on doit préserver. Et peut-être pour faire le lien donc avec ton introduction et donc cette question du lobbying, je pense que dans ce débat, la clé de voûte de ce débat sur les droits d'auteur et leur adaptation aux technologies numériques est entre les mains des artistes et des auteurs. Et une pression phénoménale a été appliquée sur les auteurs et les artistes pendant les débats Hadopi. On poussait des vieilles gloires type Françoise Hardy ou Philippe Laville contre sans doute promesse d'un énième album qui se faisait attendre depuis 10 ans, défendre la loi. Et dès que quelqu'un osait l'ouvrir publiquement avec un autre son de cloche, c'était des coups de fil des représentants de la SACEM, des producteurs, tous furibards. Quand des cinéastes, je ne suis pas censé dire ça publiquement, quand des gens de très renommés se sont exprimés contre la Dopi, plusieurs semaines après, un certain nombre d'entre eux ont su un contrôle fiscal. Et des choses comme ça. Donc, tant que ceux qui sont directement concernés ne pourront pas prendre la parole pour s'exprimer sur ces sujets-là, avec une vision d'intérêt général qui permettrait d'aller, une fois pour toutes, dans le bon sens, les pouvoirs publics ne risquent pas de changer d'avis. Et j'en connais un, dont je tairai le nom, juste un indice, il est président de la République, qui disait, ça n'est pas suffisant, mais on a besoin des people pour être élu. Donc ça fait littéralement partie de plans politiques personnels des uns et des autres, d'utiliser ces artistes qui eux-mêmes sont sous contrôle par un certain nombre d'intermédiaires. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a besoin de personnaliser et de parler de l'agissement des uns et des autres.
Il faut rappeler qu'il y a une société d'interprètes qui s'est prononcée en faveur de licence, l'ADAPI. La première
l'avait fait. Elle l'avait fait lors de la DATSI, et au début de la DOPI, le ministère de la Culture a convoqué, alors ça c'est un peu bof comme info, mais on peut couper la caméra, le ministère de la Culture a convoqué les représentants de l'ADAMI et de l'ASPE LIDAM en leur disant, si vous l'ouvrez sur la DOPI, on ne renouvelle pas votre licence, votre agrément, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui dépend du ministère de la Culture, pour continuer tout simplement d'exister. Donc même sur eux, une pression absolument phénoménale a été exercée.
Il y avait une troisième question. Allez, dernière question.
Alors, je suis désolé, c'est deux questions que l'une d'ordre juridique et l'autre d'ordre politique. D'ordre juridique d'abord, professeur, vous avez expliqué que la Hadopi ne sanctionnait pas en coupant l'accès à Internet, ne sanctionnait pas une violation de la loi, mais une violation d'un contrat. C'est bien ça?
Oui, c'est tout à fait.
Ça me
c'est,
paraît.
Non, mais ce que je vous ai référé, c'était la motivation donnée par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, pour valider, si vous voulez, ce qui avait été retenu comme solution de principe, c'est fondé sur le fait qu'il y avait donc un contrat et que les obligations n'étant pas respectées, c'était une sanction qui pouvait être prononcée. Et d'ailleurs, bon, il était ici fait référence à l'idée de sanctions complémentaires.
C'est une peine complémentaire. Je trouve ça assez étrange que lorsqu'il y a un contrat entre A et B, une autorité indépendante qui n'est ni A ni B, alors que ni A ni B n'ont à s'en plaindre, sur constatation d'une autre entreprise privée, viennent sanctionner ce contrat. Est-ce que c'est...
Non, mais ça,
je ne connais pas grand-chose, est-ce que ça se voit?
Oui, mais bien sûr, c'est tout simplement les sanctions du contrat, vous les avez définies par les textes légaux. C'est qu'il définit le cadre du contrat, et ensuite, donc, il est assorti des faits qui sont définis de manière légale, et de sanctions qui peuvent être également définies et aussi de manière légale. Donc là, il n'y a rien à dire. Vous prenez le Code civil, même, vous trouvez ce genre d'articulation.
On a fait valoir que le fournisseur d'accès, qui a un contrat qui est passé avec l'internaute contrefacteur, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, n'a pas à être atteint, lui, par une sanction qui serait par ricochet, après la coupure d'accès au réseau, le fait que le contrat ne soit pas honoré, puisque lui n'est pas responsable du téléchargement qui est effectué.
Il n'y a pas besoin, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui se plaigne de la violation du contrat entre les contractants.
Non, il suffit d'un constat. Les sociétés d'auteurs, les groupements professionnels et les CNC sont invités dans la loi
à faire le constat même. Ensuite, à transmettre après l'information
et le procureur de la République peut saisir éventuellement.
Je pense que ça fera partie de... Question préjudicielle, c'est un mot, c'est un... Non, c'est rien que je dis, je suis pas pour ça. Alors d'accord. Un certain nombre de points qui seront soulevés pour faire annuler la première décision, si un jour il y en a une, mais les éléments qui me font penser qu'il n'y en aura jamais, et que toute cette espèce de jeu de mécano un petit peu branlant qui est décrit ici, repose donc non pas sur le délit de contrefaçon, mais sur un manquement à une obligation administrative de sécuriser son accès à Internet contre son utilisation à des fins de contrefaçon. Donc une espèce de contorsion qui a été faite dans le but initial de s'émanciper des lourdes contraintes du droit pénal, qui sont celles de l'audience contradictoire, présomption d'innocence, la preuve à la charge de l'accusation, et des choses comme ça, des menus, détails comme ça, et donc de pouvoir balayer tout ça pour automatiser les décisions, et donc on a créé cette espèce de justice parallèle administrative ad hoc. Et c'est là que, patatras, tout s'effondre lorsque le juge constitutionnel dit « tu le remets dedans, le juge judiciaire ». Et qu'un dossier qui a été ficelé pour aller à une espèce de niveau ras des pâquerettes de justice, et j'hésite à employer le terme « justice » ici, va se retrouver dans les mains du juge. Nous, notre pari, c'est que le premier dossier qui va arriver dans les mains du premier juge, le juge va le mettre à la poubelle et dire « bon, maintenant, les gars, vous revenez avec les preuves ». Donc, quelque part, ils sont pris à leur propre piège.
La deuxième question, dans le plus politique, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la propriété intellectuelle? C'est-à-dire que la propriété intellectuelle, à une époque, avant le numérique, c'était sur les œuvres de l'esprit. Maintenant, à l'heure du numérique, une œuvre de l'esprit, c'est quasiment tout ce qui peut se traduire sous forme d'information, c'est-à-dire une image, peu n'importe laquelle, une vidéo, c'est-à-dire peu n'importe quoi,
un son,
une espèce végétale, un tweet, une espèce végétale, une phrase, une forme. Maintenant, il y a même un type qui a réussi en Australie à faire greffer la roue. Et maintenant, si jamais vous photographiez vos photos de vacances que vous mettez sur Internet, si vous posez devant un bâtiment quelconque, il est possible que vous violez la propriété intellectuelle de l'architecte qui a designé le bâtiment. À l'heure du numérique, la propriété intellectuelle, c'est un peu la propriété de quasiment tout. C'est un petit peu aussi absurde que les gens qui disent posséder la Lune. Et est-ce qu'il y a eu un ratage au niveau du passage au numérique, puisque ça a été réactualisé.
Ça date de
bien avant. Non, et c'est pas propre au numérique. Le numérique est intervenu petit à petit, mais la protection de la propriété intellectuelle à être tentaculaire et à ouvrir d'avant le numérique. Bon, je suis désolé, mais il faut fermer.